Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors ce que l'on souhaite pour chacun, c'est que chacun puisse, à la fin de cette matinée, repartir avec ce qu'il aura besoin pour lui de bénédiction particulière de la part de Dieu. Alors, dans quelques minutes, Boris va être plongé sous l'eau. Et ce que je vous propose pendant quelques minutes, c'est que nous essayons de nous plonger dans la parole de Dieu. Alors, pour le thème que je voudrais partager avec vous se trouve dans l'épître de Jude, le premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Si l'objectif de cette lettre de Jude est d'encourager et de conduire les chrétiens lecteurs de cette lettre à combattre pour la foi, en les invitant à identifier toutes sortes de dangers, je voudrais pour nous, ce matin, non pas passer en revue cette épître de Jude, mais simplement m'arrêter au seul premier verset de cette lettre pour partager quelques courtes pensées sur trois expressions que Jude utilise, trois mots: appeler, aimer, garder. Jude s'adresse à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés de Dieu le Père, à ceux qui sont gardés par ou pour Jésus-Christ. Alors le baptême, comme celui auquel nous allons assister dans quelques minutes, est en quelque sorte comme une carte d'identité qui dit qui nous sommes, qui précise la famille à laquelle nous appartenons. Le baptême revêt un caractère déclaratif sur le fait que le baptisé est né de nouveau, venu à la vie dans la famille de Dieu. Le jour de la naissance d'un enfant, généralement, le père va à la mairie pour déclarer la naissance de son enfant. Cette déclaration du père suffit à enregistrer le nouveau-né dans sa famille et à donner à l'enfant sa citoyenneté. Ainsi, le baptême, comme image accompagnée du témoignage du baptisé, est une déclaration de nouvelle naissance qui a eu lieu quelque part avant cet événement du baptême. Naissance d'un nouvel enfant dans la grande famille de Dieu. Et c'est sur cette base-là que Jude, s'adressant aux enfants de Dieu, aux chrétiens authentiques et fidèles, dit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. À toutes celles et ceux qui ont déclaré leur foi, qui ont décliné leur identité, Jude leur rappelle en trois mots les bénédictions attachées à leur état de filiation: appeler, aimer, garder. Alors considérons le premier mot, appeler. Que comprendre de cette expression? Il y a au moins, on pourrait dire, deux sortes d'appels. Un appel qui peut représenter une invitation qui peut se refuser. Un appel qui peut représenter une invitation qui ne peut pas se refuser. La première situation est sans conséquence. La seconde prête à conséquence. Deux exemples pour illustrer. Alors, premier exemple, Jean-Lionel vient d'en parler. En tant que membre de cette église, vous venez par email d'être appelé à participer le lundi 30 janvier à un échange sur le montage du budget 2023. Cet appel, qui vous laisse totalement libre de participer ou pas, sans que cela ne représente de conséquences pour vous, si vous décidiez de ne pas répondre favorablement à cet appel. Second exemple. Il y a environ plus de 25 ans, à l'approche de leur majorité, les jeunes hommes recevaient un appel à venir accomplir leur service militaire. Ils étaient nommés des appelés. Mais cet appel ne pouvait pas être refusé sans conséquences majeures. Dans le premier exemple, nous sommes tous appelés sans obligation à répondre favorablement. Dans le second cas, tous les jeunes hommes sont appelés avec obligation et contrainte, à répondre favorablement. Nous trouvons dans la Bible nombre d'appels, et en particulier celui que nous trouvons dans Luc chapitre 14, les versets 16 à 24. À l'occasion d'un repas de fête, un homme dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux venir. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Dans le texte que nous venons de lire, il y a une expression qui peut retenir notre attention au verset 23. « Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. » Contrains-les. Alors nous pourrions dire que dans ce cas, ce n'est plus une invitation, mais une obligation. Dieu n'utilise pas de force ou de violence dans son appel, mais de force persuasion, tant la nécessité de répondre est salutaire. Cette parabole nous enseigne, pour certains, on nous rappelle pour d'autres, une vérité. L'appel originel de Dieu est un appel universel. L'appel, l'invitation s'adresse à tous, non seulement aux premiers invités, ceux qui ont refusé, ceux qui ont perdu l'opportunité, triste et terrible conséquence, mais aussi à tous les autres, à tous ceux que l'on va chercher au carrefour, dans les rues, dans les chemins. Ainsi de même, pour nous ce matin, la parole de Dieu demeure toujours ce même appel à venir à Jésus. Un appel pressant qui se veut être persuasif. Et je voudrais plagier simplement le serviteur de la parabole en vous disant, il y a encore de la place dans la maison de Dieu. Une place pour vous, une place pour chacun qui répond à l'appel. La seconde expression, c'est le terme aimer. Nous sommes aimés en Dieu le Père. L'amour dont parle Jude est l'amour dont la racine ou l'origine se trouve dans le cœur de Dieu depuis les temps éternels. Il ne s'agit pas d'un amour de passade pour un temps. Il ne s'agit pas d'un amour changeant, variable en fonction de telle ou telle circonstance. Il ne s'agit pas non plus d'un amour conditionnel ou méritoire, aimé parce que j'en suis digne. Mais il s'agit d'un amour vrai, fidèle, sûr, d'un amour qui se donne. Et cet amour est illustré ou traduit par le verset bien connu de l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, tous appelés, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous associons souvent l'amour de Dieu aux bénédictions terrestres dont nous bénéficions. Ce qui n'est pas faux en réalité. Mais cette association seule limite grandement l'ampleur de l'amour de Dieu, qui réside dans quelque chose de bien plus grand, savoir dans le don que Dieu nous a fait en la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui fait dire à Paul, aux chrétiens de l'église de Corinthe, parlant de Jésus-Christ, « Béni soit Dieu pour son don incomparable, le don de son Fils unique. » Voilà l'amour parfait, indéfectible, inusable, dont nous sommes aimés de Dieu. Ce message de l'efficience et de la pérennité de l'amour du Père envers ses enfants, c'est ce message-là que Jude veut rappeler aux chrétiens, pour les encourager. Et c'est l'efficacité de cet amour-là qui nous est proposée à toutes et tous, aujourd'hui, par ces textes. Alors, en troisième et dernier point ce matin, montre que cet amour de Dieu pour ses enfants se traduit par le fait qu'ils sont gardés. Donc, troisième expression, gardés en Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ. Cette expression peut comprendre l'idée de protection. Garder, c'est-à-dire protéger de quelque chose, ou garder ou protéger en vue de quelque chose. En fait, Dieu est non seulement à l'origine de notre salut, non seulement il en est l'auteur en Jésus, mais Dieu en est aussi le garant, le gardien, un salut définitif. Dieu veille à ce que son salut parvienne à son achèvement total. Il ne le promet pas seulement. Il ne le donne pas seulement. Mais il l'assure pleinement. Son but ultime est de réunir auprès de lui toutes celles et ceux qui ont répondu favorablement à son appel. Gardés en Jésus-Christ. L'idée de ce terme gardé n'est pas de tenter d'assurer aux croyants qu'il ne traversera pas de difficultés ou même d'épreuves majeures dans sa vie sur terre. Mais plutôt de les affermir en leur disant qu'aucune de ces épreuves liées à notre humanité ne saurait nous faire perdre le salut offert et promis par Dieu. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves ou ces oppositions? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, toutes ces difficultés que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, comment pouvons-nous être assurés d'être gardés en Jésus? Plusieurs textes majeurs nous sont donnés dans la parole de Dieu pour fortifier notre foi, par le Seigneur lui-même, soit par ses apôtres. Et nous voyons le désir de protection du Seigneur pour ses enfants dans ces versets. D'abord dans Jean 17, « Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et dans ce texte de Jean 17, 30, où le Seigneur, comparant ses enfants à des brebis, dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Le double engagement, celui du Père et du Seigneur Jésus-Christ, a gardé ses enfants. Ou encore les paroles de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 3, 5, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, la vie éternelle, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, écoutez bien, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Je voudrais reprendre quelques paroles d'un chant que nous chantons de temps en temps dans notre église. « Il me gardera. Il me gardera car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il chérit chacun des siens. Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Appelé, aimé, gardé. » En conclusion, je vous laisse l'avant-dernier verset de Jude, le verset 24 qui vient en écho au tout premier verset. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Que chacune et chacun ce matin puisse saisir cet appel de Dieu et ainsi être nommé, appelé, aimé de Dieu le Père et gardé par Jésus-Christ. Amen.